Bonjour à tous. Dans cette série d'enregistrements, en fait, je vais vous parler des meilleurs livres de marketing. En effet, j'ai essayé de faire une petite liste il y a quelques temps des livres qui m'avaient vraiment marqué au niveau du marketing. Puis j'espère que ça va vous donner des idées et que vous allez découvrir des petites pépites qui vous aideront à en savoir plus sur le marketing, mais pas que, parce qu'en fait, je vais aussi aborder la vente, je vais aborder la productivité parce que ben, c'est essentiel. Alors pour l'instant, j'ai quoi une vingtaine de livres, je crois que j'en ai 28. Je vais enrichir régulièrement la collection. Bon, bien sûr, je parle très rapidement du growth hacking, de la semaine de 4 heures, etc., que j'ai déjà détaillé. Mais ce coup-ci, en fait, je vais vous parler du deuxième livre que j'ai mis dans la liste, après le growth hacking, mon propre bouquin. C'est The One Thing, passer à l'essentiel. Alors, ben, j'espère que vous connaissez déjà ce bouquin. Si vous ne le connaissez pas, je pense que ça peut être quelque chose qui est vraiment intéressant. En fait, ce bouquin est vraiment fait pour tous ceux qui sont entrepreneurs, cadres, managers, et qui, comme moi, pendant très 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 longtemps, avaient des journées de 14 heures avec des choses qui n'arrêtaient pas. Ben, on n'arrêtait pas de prendre des décisions. Si, en fait, c'est vrai que ce bouquin-là résume bien aussi le fait que parfois on travaille des heures et des heures et des heures, puis à la fin de la journée, on se dit, putain, merde, j'ai rien fait de ce que je voulais faire. Et si vous vous êtes dit une fois ça dans votre vie, c'est que, enfin, ou dans votre semaine ou dans votre mois, c'est que vous avez grandement besoin de ce bouquin. Alors, ce bouquin a quand même une limite, c'est qu'en fait, il s'adresse aux gens qui sont plutôt des exécutants. Puisqu'en fait, il indique bien l'auteur, hein, Gary Keller et Jay Papasan, qui en fait, il y a deux types de personnes dans les entreprises. Il y a les gens qui sont des décideurs et qui passent en fait de réunion en réunion. Généralement, leur planning, c'est à l'heure. Et il y a les gens en fait qui sont des exécutants, qui doivent plutôt travailler avec des grosses plages horaires de 2 heures, 3 heures, 4 heures, pour tout simplement avancer sur leur travail. Et donc, bon, moi, je me retrouve un petit peu dans les deux. Mais si vous êtes un exécutant et pas un haut cadre dirigeant qui passe son temps en réunion, bah, là, vraiment, ça va vous donner quelque chose de méthodologie qui va vraiment vous aider à avancer, à aller plus vite et à obtenir plus de résultats. Si vous êtes entrepreneur, alors là, ça va vraiment être le jour et la nuit, vous allez voir, même si le concept est hyper simple, et ben en fait, ça va vraiment vous aider. Parce qu'en fait, le concept, c'est vraiment the one thing, aller à l'essentiel, tout est dit en fait dans ce livre, pour savoir quelle est la chose la plus importante à faire dans la journée, dans la semaine, le mois et cette année pour avancer. Et le livre est vraiment concentré autour de cette idée-là, mais il est vraiment bien. Alors, pour vous aller un peu plus loin dans ce bouquin, je vous donne un petit peu mon sentiment là-dessus. Là, en fait, le but, c'est de se dire, à chaque fois que vous commencez votre journée ou votre semaine, c'est quelle est la chose essentielle que je peux faire pour avancer le plus possible sur tel sujet. Et c'est vrai que moi, j'avais un peu tendance à me faire des to-do list à rallonge et de faire un petit peu ce qu'on me demandait ou ce qui arrivait en priorité. Et en fait, quand j'ai lu ce bouquin-là, vraiment, ça m'a ouvert les yeux. Parce qu'en fait, ça permet de savoir quel est le but et de gérer les priorités des priorités. Parce qu'autrement, en fait, parfois, on va à la simplicité, à la facilité. Et quand on n'a pas beaucoup de temps, et bien cet outil-là de se dire, voilà, quelle est la chose essentielle que je peux faire cette semaine ou cette journée pour avancer, ben vous permet tout de suite de dire, ouais, c'est ça que je dois faire. Ça apporte vraiment une clarté et vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus simple pour définir vos priorités. En fait, d'abord, il faut travailler, et il indique dans le bouquin, travailler sur la vision, ce qu'il appelle lui la grande raison. Pourquoi en fait on fait quelque chose? Et en fait, cette grande vision ou cette grande raison permet de définir une voie et savoir pourquoi on va dans cette direction si on ne sait pas encore. Par exemple, moi je sais que ma voie en fait, avec conseil marketing, c'est vraiment d'aider les autres. Et ensuite, ben voilà, c'est ma priorité de trouver comment je vais faire. Une fois qu'on a cette grande voie et qu'on sait ce qu'on veut faire, par exemple, ça peut être, je sais rien, ça peut être aussi gagner de l'argent, ça peut être retraité à 50 ans, enfin j'en sais rien. On va définir cette grande priorité, cette vision, et ensuite on va mettre en place les actions qui vont derrière. Et comme il explique dans le bouquin, quand on a en fait défini comme ça un certain nombre de petites choses qu'on fait régulièrement, un peu comme dans le growth hacking, et ben en fait c'est comme des dominos. Une petite chose peut pousser une moyenne chose qui fait une grande chose, qui fait une plus grande chose, etc. Et ben, comme un domino, on fait un petit effort et après on va faire effondrer la totalité de la pyramide de domino. Si on a vraiment ce fameux but, cette direction, et si on sait où on va aller, ça va être vraiment beaucoup plus simple d'y arriver. Et c'est vrai, moi j'avais un petit peu de mal à avoir cette clarté, à me dire, mais quel est mon objectif prioritaire d'ici 5 ans? Et c'est vrai que si on ne l'écrit pas, parfois en fait on se laisse concentrer dans le train-train et dans le tourbillon du quotidien. Moi ça m'est arrivé pendant quasiment 15 ans, je crois. 12 ou 15 ans, quand j'ai travaillé chez une boîte informatique, un gros éditeur international, ben en fait, j'étais en fait comme un hamster dans une roue, et on avait des projets sans cesse, sans cesse, sans cesse, et à la fin, en fait, le rythme s'était vraiment accéléré avec l'internationalisation, etc., etc. Et en fait, on n'avait jamais le temps de réfléchir, de prendre du recul, on était tout le temps sur des projets, on avait les vacances, on se reposait un peu, puis on partait à l'étranger, puis aussi j'avais d'autres projets perso, et en fait le temps passait, passait, passait. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est dire, mais ok, d'accord Fred, qu'est-ce que tu fais maintenant, mais quel est ton objectif dans 5 ans? Dans un an, qu'est-ce que c'est? Et dans X mois, quel est ce but? Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé sur l'atteinte du chiffre d'affaires avec mon blog Conseil Marketing, qui est une activité secondaire. Et c'est vrai que je me dis, ben tiens, qu'est-ce que tu veux en fait atteindre comme objectif? Et à ce moment-là, quand on atteint tel objectif, on met derrière les actions. Et c'est pour ça souvent que dans un manager vous dit, oh non, mais d'abord on va définir les objectifs et ensuite on met en place les actions. Et c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup d'entreprises, c'est du vrai bullshit, parce que on sait très bien qu'on n'a jamais les moyens, on n'a jamais la possibilité de faire telle chose, telle chose, telle chose. Et bah, finalement, c'est du foutage de gueule. Mais en fait, avec le livre The One Thing, on apprend à se dire, mais oui, mais attends, ma priorité, c'est de faire ça. Et donc, si je veux faire ça, je vais concentrer tous mes efforts là-dessus. Et en fait, ça va permettre d'être beaucoup plus efficace parce qu'on va penser long terme, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, et ensuite passer à l'action avec un plan qui va être beaucoup plus détaillé. Ce qui est également important de se dire, c'est qu'il ne peut y avoir qu'un essentiel. Ça, c'est et c'est the one thing, c'est pour ça en fait qu'il n'y en a qu'une seule chose, et c'est détailler cette chose essentielle et définir les étapes derrière. Parce qu'en fait, si on se dit, tiens, je dis n'importe quoi, allez, je veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Le truc, c'est que si vous dites voilà, je veux faire 100 000 euros, bon, ok, d'accord, je vais faire ça, ça et ça, mais vous ne détaillez pas le chemin complet, ça ne marchera pas. Ce qu'il faut faire, par exemple, si vous voulez faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est dire ok, bah, d'accord, comment je peux faire ces 100 000? Alors, je vais vendre avec telle ligne de produits, telle ligne de produits, telle ligne de produits, et là, vous faites le total, bah, voilà combien je dois en faire en un an, sachant que le mois d'août est mort, sachant que ceci, cela, et là, vous allez vraiment voir. Bah, le gap, et vous allez voir en fait ce que vous devez faire pour y arriver. Voilà. Et donc il faut vraiment écrire son but à terme et sa priorité immédiate. Même si c'est pas tout à fait suffisant, ça permet de faire en fait le lien entre maintenant et dans 5 ans et se dire ok voilà je suis là maintenant et qu'est-ce que je vais faire. Ça permet de visualiser le processus et pas juste le résultat. En fait ils ont fait une étude dans le bouquin qui montre en fait que les élèves qui ont en fait, on leur a dit, bah tiens, comment tu vas faire pour réussir un examen? Et en fait, il y a des gens où ils devaient juste dire, bah voilà, je veux réussir l'examen. Et des gens en fait qui ont visualisé comment ils allaient faire pour réussir l'examen. C'est-à-dire qu'ils allaient faire, par exemple, 2 heures de révision par jour, plus ceci, plus cela. Et on voyait que ces gens qui avaient visualisé le processus étaient bien plus efficaces parce qu'ils avaient visualisé le processus et ils avaient noté comment le faire. Donc voilà, il suffit de pas de dire, ouais, tiens, je veux faire tant de choses ou je veux faire tel truc, mais il faut expliquer comment on le fait. Ce qui est également intéressant dans le bouquin, c'est que il ouvre au fait le sujet sur l'expertise. Parfois, les gens se disent, ouais, ok, dans 5 ans, je veux par exemple être directeur marketing ou je ne sais quoi. Et bien, en fait, il est assez intéressant de voir qu'il suffit en fait de faire 10 000 heures, 10 000 heures d'une action pour devenir un spécialiste et devenir un expert. Il dit voilà, il faut 4 heures par jour ou bah, à ce moment-là, 4 heures par semaine, c'est beaucoup plus long. Mais en tout cas, il suffit d'avoir ces fameuses 10 000 heures pour arriver à atteindre l'essentiel. Et c'est pour ça en fait qu'il faut plutôt se concentrer chaque jour pour faire telle action plutôt que se disperser. Et il donne l'exemple en fait de la guitare, puisqu'en fait il disait bah voilà je voulais apprendre à jouer de la guitare et bah, c'était un but qui était un petit peu flou. Mais en fait il s'était dit non mais moi je vais apprendre à jouer du blues. Et qu'est-ce qu'il a fait? En fait il a appris uniquement, je crois que c'est deux trois accords ou un accord, et il s'est concentré sur cet accord et il bossait uniquement 20 minutes par jour tous les jours là-dessus et pas plus parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Et grâce à ça il est devenu un expert de cet accord-là qui était capable de jouer bah, la majorité des musiques de blues. Et il explique en fait que on a 39,5% de chances de réussir si on écrit ses objectifs et on atteint 76% si on soumet ses objectifs à un coach ou un mentor. Et ça, en fait, je suis 100% d'accord avec ça. Donc, précédemment, on a vu, donc voilà, il faut écrire ses objectifs, mettre le chemin, etc. Mais si en fait vous avez quelqu'un avec qui vous allez devoir rendre des comptes, ça va être beaucoup plus efficace. Et c'est vrai que depuis quasiment 2 ans, moi, une fois par mois, j'ai un rendez-vous avec un coach. On se prend 1 heure et demie en fait pour parler de notre situation commune, etc., etc. On fait un coaching mutuel. Et c'est vrai que ça me permet de garder le cap et ça me permet d'être beaucoup plus, comme on dit en anglais, accountable, de devoir rendre compte pour ce que je fais. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, si ça marche pas, en fait, vous devez tout simplement vous engager à faire vous-même, comment dire, acte de contrition, hein, et faire votre mieux avec un engagement. Ben, moi, je m'engage à faire ça, à faire telle chose comme ça. Et il faut apprendre en fait à changer les méthodes et à écouter les bonnes personnes. Ça, en fait, sincèrement, pendant des années, j'y ai pas cru. C'est-à-dire que pendant des années, il y a eu beaucoup de livres sur le développement personnel qui disaient, ben voilà. Tu es en fait la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Et c'est vrai que ça pouvait paraître, et ça peut paraître un petit peu présomptueux et très américain de se dire, ben voilà, si tu as des personnes autour de toi qui sont des gens qui sont salariés ou qui ont un niveau moyen, jamais en fait tu n'auras un niveau supérieur. Et le pire, c'est que je me rends compte après une dizaine, une quinzaine d'années que c'est vrai. En fait, si autour de vous vous avez que des gens qui sont par exemple salariés ou qui ont un niveau de salaire de X, bah, ça va être pour vous difficile d'avoir plus de salaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, vous avez un référentiel, vous avez une manière de penser, vous avez en fait des attitudes qui font que bah, vous faites comme vos amis, vos potes. Au contraire, si vous avez quelqu'un autour de vous ou d'autres personnes autour de vous qui bah, ont un parcours plus important, qui gagnent plus d'argent, bah, vous allez comprendre que pourquoi ils gagnent plus d'argent? Parce que peut-être qu'ils ont changé de boîte 5 fois, peut-être qu'ils ont une manière de décider, peut-être qu'ils ont telles attitudes, etc., etc. Et c'est vrai que bah, on peut le faire sans renier ses amis. Et ça, en fait, je l'ai appris il y a à peu près 2 ans. Parce qu'il y a 2 ans, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai essayé de faire un déjeuner tous les semaines, en fait, avec une personne qui est entrepreneur ou qui a un parcours assez sympa. Donc, je fais des petites interviews. Alors, j'arrive pas à le faire tout le temps, toutes les semaines. Et parfois, c'est les mêmes personnes. Mais en tout cas, ça me permet, en fait, de rencontrer d'autres personnes qui me remotivent, qui me montrent comment faire. Si vous ne pouvez pas faire ça, parce que c'est un peu compliqué, vous n'avez pas le temps, écoutez des podcasts avec des interviews. Ça vous permet, en fait, de voir les parcours de personnes et de trouver des idées inspirantes. Voilà. Si possible, trouver un coach. Alors, ça coûte un petit peu cher, je trouve, je vous l'accorde, mais sincèrement, ça vous permet en fait d'aller dépasser vos limites, de prendre du recul. Et l'intérêt du coach, ça va pas de vous dire quoi faire. Et c'est vraiment la grosse différence entre le coach et le consultant. Le consultant va vous dire, bah voilà, pour arriver à faire ça, tu fais ça. Le coach, en fait, va pas vous dire fais ça. Il va vous faire poser des questions. Et c'est vrai que c'est ce que je disais à Raphaël, qui est mon coach que je vois tous les mois. Je lui dis, mais tu sais, tu m'as posé une question à telle date, bah j'ai réfléchi, j'ai pas mis en application, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, j'ai dit, mais t'as raison, ça m'est trotté par la tête et j'ai acquis la maturité pour ça. Voilà. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là externe. Autre point, essayez d'être responsable de vos actions. Ça, en fait, c'est aussi quelque chose que je remarque. Il y a plein de gens qui disent non, mais c'est à cause de bidule, c'est parce que ceci, parce que cela. Non, il faut pas repousser la faute sur les autres. C'est vous qui devez accepter les erreurs. S'il y a des problèmes, c'est votre faute et vous devez apprendre à les corriger et à faire de votre mieux. Et ne restez pas non plus passif, c'est-à-dire bah voilà, beaucoup de gens comme ça ont la simplicité de continuer dans leur job, de continuer dans leur travail, de faire comme avant. Sauf qu'en fait, si on fait comme ça, en fait, on perd l'habitude et on va aller faire le train-train habituel et on va pas trouver l'essentiel qui va vous permettre de progresser. Voilà. Donc pour être plus productif également, bon, il est classique, hein, dans ce bouquin, il parle bien de savoir dire non aux voleurs de temps, c'est-à-dire les gens qui viennent vous interrompre tout le temps. Moi, je mets de plus en plus en fait mon casque de Walkman quand je suis au travail. Les gens se disent, t'es en réunion, t'es au téléphone, t'écoutes un truc, et ça me permet de repousser un petit peu les assauts des gens qui n'ont pas vraiment une demande très très importante. Voilà. C'est également réduire les choses. Il donne l'exemple de Steve Jobs, quand il est revenu à la tête d'Apple, il est passé de 300 et quelques produits à 10 produits et l'a réduit à l'essentiel. Et c'est vrai que si vous voulez vous aussi avoir plus de succès dans vos ventes, réduisez votre gamme de produits. Moi, pendant longtemps, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah tiens, Fred, tu vas sortir un nouveau produit tous les mois et grâce à ça, en fait, tu vas faire plus de chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai que c'est un bon moyen de faire plus de chiffre d'affaires parce que vous faites une nouvelle formation vidéo toutes les semaines, vous sortez un nouveau produit, etc. Il y a plusieurs problèmes, c'est que c'est épuisant, que vous n'arrivez pas en fait à capitaliser sur un produit, et après il y a tout ce qui est mise à jour, etc. etc. Donc en fait c'est un petit peu compliqué cette histoire de faire un produit tout le temps. Et en fait vaut mieux se concentrer sur un gros produit, avoir plus de valeur ajoutée, le vendre plus cher, apporter plus de services, avoir plus de personnes qui sont contentes et qui vont vous recommander que d'essayer de faire du volume, du volume, du volume, du volume. Et c'est valable pour la formation vidéo, mais c'est valable pour d'autres choses. Concentrez-vous sur un seul produit, essayez de le faire le mieux possible, essayez de le valoriser, essayez de faire la communication au lieu d'épuiser vos ressources et votre temps à sortir X produits et à vous concentrer sur une gamme de produits qui va être bien, 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 bien trop large. Voilà. Autre également chose importante, c'est l'hygiène de vie. Bon, alors ça, c'est pas facile, sincèrement. Moi, je suis quelqu'un qui est couche-tard, je suis quelqu'un qui aime bien travailler la nuit, et c'est vrai qu'ils recommandent, et je le sais, de plutôt se lever tôt que se coucher tard, et moi, je le vois. Hein. Quand je reste tard, en fait, ben parfois je perds en fait de la motivation. Et c'est vrai que la motivation, c'est un peu comme une jauge. Hein. Ben si vous avez passé une journée à bosser, si vous êtes fatigué, ben votre jauge de motivation va pas être très importante. Donc qu'est-ce que je fais moi souvent? Eh ben je commence par regarder deux trois petites vidéos, un clip. J'aime bien les bandes annonces de cinéma, des choses comme ça. Et ensuite je me mets à bosser parce que ça me permet de remonter un petit peu mon niveau de motivation. Un autre point, une autre astuce qui est assez intéressante et qui recommande dans le bouquin, c'est d'écouter de la musique et de commencer directement à bosser. Et c'est vrai que le plus dur, sincèrement, quand on doit commencer à travailler, c'est de commencer. Et c'est pas de travailler. C'est-à-dire que, voilà, une fois que vous avez gagné un petit peu de motivation, tac, mettez-vous directement à travailler dessus. Alors, pareil sur les facteurs de motivation. Disent qu'une astuce, en fait, c'est pas forcément d'écouter de la musique inspirante tout le temps, tout le temps, mais c'est de mettre une musique et parfois l'écouter tout le temps, tout le temps, et éviter en fait de zapper ou d'être distrait. Moi, je dis toujours, c'est comme si en fait vous allez réussir à être plus productif quand vous résistez à l'envie de prendre un café, d'aller pisser, d'aller sur Facebook, etc., et que vous serez concentré sur votre truc. Si vous résistez 2 secondes, vous avez envie de pisser, vous avez envie de boire un café, résistez 2 secondes. Ça dure, allez, ça dure 15 secondes maximum, et au bout de 15 secondes, 30 secondes, vous allez pouvoir continuer sur votre lancée et vous lancer. Voilà. Pareil, il explique bien, bien sûr, bien manger, méditer, dormir 8 heures par jour. Alors ça, c'est des choses que j'essaierai de faire un jour, mais pour l'instant, je suis pas encore au point. Mais c'est vrai que la méditation, ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. Pareil, travailler sur votre espace de travail, soyez quelque chose, ayez un espace de travail qui va être clair. Fréquentez donc les personnes, comme je vous le disais. Il prend l'exemple en fait de l'école. Vous voyez bien que si vous avez des bonnes fréquentations à l'école avec des gens qui sont bosseurs, de bonnes familles, etc. Et ben certes, ça vous force à bosser, mais surtout en fait, ça va vous donner en fait un réseau, et ça va vous permettre en fait d'avoir un réseau qui vous permettra d'aller connaître de bonnes personnes, d'avoir les bons plans, etc. etc. Et c'est pareil pour le boulot. Voilà. Donc, rappelez-vous, si vous êtes un exécutant, c'est ce que je disais en introduction, réservez des créneaux pour travailler utilisez uniquement le début de journée et la fin de journée pour vos réunions, ce qui vous permettra d'être concentré pendant les plages de travail qui vont être longues, vos essentiels dans cette journée-là. Et vraiment, c'est définir ce qui est essentiel dans la journée, dans la semaine, dans le mois, et donc réserver du temps pour ces éléments. Parce qu'autrement, si vous ne bloquez pas du temps pour aller à l'essentiel, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez être débordé par le quotidien et les gens vont voler votre temps. Voilà, donc c'était le livre, un petit résumé rapide hein, du livre The One Thing de Gary Keller et de Jay Papasan. Donc si vous voulez voir en fait ben, tous ces fameux livres marketing, ben, vous avez juste à taper dans Google les meilleurs livres de marketing. Et là, vous tomberez sur mon article de blog et vous verrez la vingtaine de bouquins. Donc n'hésitez pas, si vous avez lu aussi The One Thing, ben, faites-moi un petit commentaire, soit dans la vidéo, soit dans le podcast, soit en fait dans l'article de blog. Et je serais curieux en fait d'avoir vos propres sentiments et vos propres retours. Est-ce que vous avez appliqué aussi The One Thing? Est-ce que vous avez lu? Est-ce que ça a été un bouquin qui vous a ouvert les yeux? Moi, sincèrement, c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé. Et je sais que parfois, c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, dans ma liste de bouquins, là, j'ai mis Paulo Coelho, de l'Alchimiste, hein, qui est un bouquin qui est pourtant apprécié par plein de gens et qui parfois, ça a été vraiment une révélation pour eux. Et pourtant, moi, l'Alchimiste, sincèrement, j'ai trouvé ça bon, un peu chiant, pas très concret, pas très pratique, mais je sais que j'étais pas en fait dans la période. Je pense que ce bouquin-là, il doit être bien quand on est en période de doute, qu'on essaie un petit peu de savoir où on va, etc., etc. Et ça permet d'ouvrir les yeux, de savoir où on doit aller. Mais là, bon, voilà, moi, ça m'a pas du tout accroché. Je l'ai mis quand même parce que je sais que ça a été une révélation pour beaucoup de monde. Mais pour vous, The One Thing, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je vous ai dit, est-ce que ça vous parle? Et est-ce que si vous avez lu le bouquin, est-ce que ça a changé votre vie? Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.